Monsieur Rufin Bena Bentungu, bonjour.
Bonjour, monsieur Armando.
À l'heure actuelle, est-ce que le gouvernement a le contrôle de ces mines?
Quand on parle de mines, on parle de l'endroit où, effectivement, les minerais sont exploités. Mais on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas véritablement de mines à caractère industriel, à proprement dit. Il y a des mines semi-mécanisées qui sont gérées par des petites sociétés ou des coopératives. Nous avons un total contrôle de ces mines-là. Et il y a des mines artisanales qui sont gérées par nos compatriotes, les artisans miniers. Là également, nous avons un total contrôle. Mais il y a deux permis industriels. Je pense que c'est de cela que vous voulez parler, que le gouvernement a attribué à des sociétés étrangères. Le premier, c'est le permis de l'uranium de Bakouma qui a été attribué à la société Areva. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'activité d'exploitation là-bas. Et il y a un autre permis d'exploitation que la société Midas Ressources s'est adjugé suite au retrait du permis de la société Or Afrique. Et donc, dans ce permis-là, il y a une part de permis de recherche qui permet d'augmenter les ressources de cette zone-là. Mais il y a une part qui concerne le permis d'exploitation. Et normalement, il était prévu l'entrée en exploitation pour août 2023. Mais avec la crise des hydrocarbures que nous avons connue dernièrement, la crise pétrolière, là, certainement, il va y avoir une prorogation de ce délai.
Mais selon les Américains, les Russes, certains partenaires du gouvernement centrafricain exploitent dans une opacité des ressources minières de ce pays. Ceci en récompense de la protection du pouvoir de M. Faustin Lacantoadira. Contrôlez-vous vraiment les mines de ce pays, monsieur?
Monsieur Armando, vous avez dit selon les Américains. Voudriez-vous me dire quels sont les Américains qui parle de la non-maîtrise des zones minières?
Oui, vous avez le rapport des excentriers.
Il n'y a qu'une seule mine aujourd'hui détenue par une société à capitaux russes. Une seule société qui détient un seul permis d'exploitation. Mais quand on dit que les mines, c'est déjà plusieurs, on dit que les mines ne sont pas contrôlées, je suis sidéré d'entendre cela. Et quand on dit que la mine que les Russes sont en train de vouloir exploiter n'est pas contrôlée, je me dis, il y a problème. Ce site-là est placé sous l'autorité du ministère des Mines.
Vous voulez parler de Bakouma?
Non, je parle de Ndassima, pas de Bakouma. Parce qu'on parle des Russes. C'est la mine d'or de Ndassima qui est à Bambari. Il y a des missions que nous envoyons régulièrement sur ce site. Et je viens de vous dire que normalement, il était prévu l'entrée en exploitation de cette mine-là en août 2023. Mais à cause de la crise que nous avons connu en termes d'hydrocarbures et beaucoup nombre d'impondérables, certainement il va y avoir un report de quelques mois avant que cette mine n'entre véritablement en exploitation.
Bien, l'opposition voit à travers la loi de tokenisation adoptée par l'Assemblée nationale en fin mai dernier le bradage systématique des ressources naturelles de la République centrafricaine aux étrangers. Quel est le bien fondé de cette nouvelle loi?
Bon, quand on parle de bradage, ça veut dire qu'on a un bien précieux et qu'on le vend à un vil prix. C'est ce qu'on appelle bradage. Et quand on parle de la loi de la tokenisation comme étant un bradage, c'est trop vite aller en besogne. Parce que je me dis, la loi elle-même n'est même pas encore promulguée. Et en plus, cette loi vise juste à mobiliser des capitaux pour le financement des projets qui sont contrôlés par l'État. La loi portant tokenisation des ressources naturelles et autres foncières ne voudrait pas dire tout de suite, quand elle est promulguée, on va se mettre à vendre. C'est tout à fait normal, ils sont dans leur rôle de l'opposition. Mais vouloir dire qu'on veut brader, alors que la loi elle-même dit que quand nous avons un projet, nous mobilisons le financement à travers la tokenisation, le gouvernement après délivre un titre minier. C'est le gouvernement, c'est-à-dire le code minier continue de s'appliquer dans le cadre foncier. Les textes en matière de foncier continuent de s'appliquer. Dans le cadre de la forêt, le code forestier continue de s'appliquer normalement. Je prends un exemple parce que j'ai suivi quelqu'un dernièrement qui a parlé à votre micro et qui avait donné une illustration de quartier Galabadja et qui a dit, ben, quelqu'un peut rester à l'extérieur et acheter tout le quartier Galabadja. Mais je dis que c'est totalement faux.
Mais oui, à l'heure où nous sommes, est-ce que le gouvernement a une idée sur les mines, les forêts et surtout le foncier de la République centrafricaine avant d'adopter cette loi?
Voilà, c'était important de prendre connaissance du texte avant de pouvoir parler. Je prends l'exemple du secteur minier. Le texte dit, pour pouvoir tokeniser une ressource, on certifie l'existence de cette ressource. On certifie l'existence de cette ressource avant de pouvoir mettre le projet sur le blockchain et de le tokeniser. C'est en fait le projet qui est tokenisé. Ce n'est pas la zone. Ce n'est pas les ressources, c'est le projet d'exploitation qui est tokenisé, c'est-à-dire quand nous avons un projet d'exploitation de cobalt qui vaut par exemple 20 milliards, ce projet-là que nous avons conçu, nous le mettons sur le blockchain. Et chaque centrafricain, c'est de cela qu'il s'agit. Ou bien des étrangers, parce que j'ai écouté certains parler seulement des étrangers comme si les centrafricains n'ont pas d'argent pour pouvoir investir chez eux. C'est juste la démocratisation des financements. On morcelle ce projet de 20 milliards-là en plusieurs jetons qu'on appelle tokens. Et les gens achètent ce jeton-là à travers le blockchain. Ils achètent, chacun fait sa mise. Nous avons les 20 milliards. Maintenant, la procédure qui doit suivre, c'est celle du code minier. Le gouvernement délivre maintenant un titre minier pour l'exploitation du cobalt. La procédure régulière, une société de droit centrafricain est créée et c'est cette société-là qui est porteuse de ce projet, qui est détentrice de ce permis minier et qui a des droits et obligations conformément au code minier.
Mais selon la Constitution, le président de la République dispose de 2 semaines pour la promulguer, c'est-à-dire cette loi. Mais cela tarde. Est-il méfiant des critiques ou du danger que cette loi représente pour son pays?
Méfiant, je dirais non, puisque les 15 jours dont vous parlez, c'est le délai imparti au chef de l'État. Lorsqu'il reçoit le texte, ce délai-là commence à courir. C'est le délai imparti par la Constitution. Des 15 jours-là, c'est quand il reçoit le texte. Or, jusque-là, le chef de l'État n'a pas encore le texte. C'est encore au niveau de l'Assemblée nationale qui est en train de faire des corrections sur le texte.
C'est une fois que la loi est votée, en principe, ça devait rentrer en vigueur.
Ce n'est pas ce que la Constitution dit. C'est quand le chef de l'État est saisi et que pendant les 15 jours, il ne promulgue pas la loi, à ce moment, le texte entre en vigueur d'autorité.
Voilà plusieurs mois passés qu'on attend aussi la relecture du code de minier centrafricain pour question de transparence. Qu'est-ce qui bloque les travaux?
Vous parlez de plusieurs mois, je parlerai de plusieurs années. Parce que ce processus a commencé depuis 2017. Nous avons travaillé sur le projet texte avec les partenaires. Nous avons commencé avec la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Nous avons réalisé une étude diagnostique qui avait attesté de certaines faiblesses de notre dispositif juridique actuel. Grâce à l'appui de la Banque mondiale, nous avons soumis le projet texte au gouvernement qui l'avait adopté et qui a envoyé à l'Assemblée nationale. Mais puisque nous étions encore en discussion avec la Banque mondiale, nous avons sollicité de l'Assemblée nationale de sursoir à l'examen de ce texte le temps pour nous de finaliser les discussions avec la Banque mondiale avant de pouvoir examiner, certainement en session d'octobre, ce texte sera présenté à la plénière pour examen et adoption.
D'après les observateurs sociaux, le gouvernement entend dans ce nouveau code minier privilégier un seul partenaire qui est donc la Russie dans les affaires de vente des ressources naturelles. Confirmez-vous cette information?
Je ne le connais pas, ces observateurs sociaux. Nous savons que la loi est d'une portée générale. La loi ne vise pas une personne. Cette loi-là ne va pas viser les Russes, ni les Américains, ni les Congolais, les Tchadiens. C'est une loi d'une portée générale. Quand on dit que nous sommes en train de faire un code minier juste au bénéfice des Russes, je dis que c'est de la mauvaise foi.
Mais si le rapport de The Sentry, une ONG américaine que vous avez citée tout à l'heure, accable le gouvernement et insiste surtout sur le fait que le groupe Wagner s'accapare de mines de ce pays, n'est-ce pas que votre gouvernement est désormais marqué au fer rouge sur le plan mondial?
Mais nous sommes dans une communauté internationale où tout le monde contrôle tout le monde. Vous-même, vous avez suivi, sauf erreur de ma part, dans ce rapport qui a été présenté, on vous a donné des éléments probants en termes de preuves de ce qu'on a affirmé. C'était juste des affirmations.
Et donc pour vous, c'est de la mauvaise foi une fois de plus?
Mais c'est de la mauvaise foi, vous l'avez très bien compris.
Monsieur Rufin Bena Beltungu, merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Armando.